écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cédric de Fréquence Mutine à Brest s'empare de la carte blanche cette semaine pour la sortie du disque After par le Rennais Brasier. Interview à retrouver en fin d'émission. Entre Lynch et Michel Gurvich se trouve Agathe Présence. L'artiste normande manie avec brio une folk électronique à la fois vulnérable et expressive dans son deuxième album Depressed. C'est une des découvertes de la semaine aux côtés de Fake Brutal par The Spitters. Plus de 10 ans après leur formation, les Toulonnais sortent en cette fin d'année un cinquième disque au riff frénétique à découvrir tout de suite avec Denis de Radioactive à Toulon.
Sur Radioactive, qui commence dans la même ambiance, mais cette fois avec les Spitters. Bonsoir les gars.
Salut.
Yo. Bonsoir.
Vous êtes tous les quatre. Nous sommes heureux de vous recevoir.
On est tous les quatre.
Voilà, Florian, Dorian, Barney et qui j'ai oublié, Max évidemment. Les gars, bien heureux encore de vous recevoir. Et là, qu'est-ce qui se débarque?
Notre album.
Votre nouvel album qui s'intitule Fake Brutal. Le stress d'avant sortie, comment ça se passe?
Voilà, c'est la course.
Ouais, on est bien dans le jus là sur la sortie, mais on est super heureux, on a hâte de faire découvrir tous ces morceaux.
C'est vraiment bien, de toute façon on en est à quoi, 4 singles c'est ça?
3 singles.
Ouais, ça donne un bon avant-goût. On avait prévu d'en faire 11, mais vu qu'il y a 11 morceaux.
Florian, nous on est bien content de t'accueillir parce que la dernière fois, c'était Alex.
Ouais, exactement, je suis le petit nouveau. Très honoré d'être là, enfin pas plus trop le petit nouveau parce que ça fait 2 ans maintenant en vrai.
C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce nouvel album avec l'accueil un peu incroyable que vous recevez parce que le support presse il est quand même conséquent. On peut parler de Varmatin, on peut parler de Rock'n'Folk.
Aussi, ouais.
On peut parler de Mono.
Tout à fait, grave.
On peut parler de divers blogs, donc même des blogs anglais.
Ouais, c'est clair. C'est les belles nouvelles.
Même Libé a parlé de vous.
C'est pas du tout habituel, ouais. Non, mais clairement, on a une personne qui bosse très très bien pour nous mettre en avant dans les magazines, etc. Et on est super content de son taf parce que vraiment, ça nous permet d'avoir une grosse visibilité par rapport à ce qu'on avait avant.
Et est-ce que ça rajoute de la pression? Ou pas? Ou le contraire?
Non, on est content. Pour une fois, qu'on sort quelque chose et qu'il est visible.
Ouais.
Habituellement, on n'est pas très fort sur la communication.
Ouais.
Et là, c'est la première fois que on est affiché dans la presse et qu'en plus, il y a des bons retours.
Qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? On se balance un petit peu de son ou on parle encore un peu de cet album, l'enregistrement, les sites divers, machin, mais on fait un peu de son avant?
Qu'est-ce qui vous ferait
plaisir?
Un peu de son, ouais.
On peut s'envoyer du son.
Allez, carrément. Allez, chaud. Allez,
qu'est-ce que vous choisissez pour envoyer?
C'est brutal.
So On revient un peu sur Fake Brutal ? Sur la création ?
Si, il faut.
Sur l'écriture ? Donc Max, majoritairement ça vient de toi, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Ouais, principalement, ouais. Principalement.
Les 13 titres ?
Alors il y a un morceau que Barney a composé, y a le morceau qu'on a fait ensemble, aussi toi t'as un morceau que t'as composé dedans.
Ouais, j'ai composé. Alors.
Et après oui, enfin c'est même si j'amène l'idée à la base, en soi on le réaménage, ouais. Puis on s'est quand même bien pris la tête sur ce morceau, à essayer de faire des arrangements, des petites cassures, de surprendre, d'être vraiment efficace, de choper toutes les mélodies qu'on pouvait avoir dedans, ouais. Sans que ce soit trop non plus. Et bah Fake Brutal du coup, qui porte le morceau qui porte le nom de l'album, c'est un morceau quand même pas avec pas mal de haine, qui raconte globalement le un peu la pression sociale qu'ont les gens sur le fait de devoir constamment être bien beau, devoir sourire, avoir des faux semblants, etc. Je pense que ça résume déjà bien la thématique du morceau. Et puis ensuite c'est un morceau qu'on kiffe, qui est très énergique et qu'on prend plaisir à jouer.
Par rapport à quoi? Très dur par rapport à la technicité ou par rapport à la rapidité ou les enchaînements?
Non,
les...
C'est un peu la tout totale... ça.
Le mood
le
général.
Tout. Le mood, la rapidité, il y a beaucoup de mise en place, ça va vite. Il faut être attentif à ce moment-là. Quand je le vois dans la setlist arriver, je commence de plus en plus à me mettre trop mal.
En parlant de live, vous avez maintenant été abonné à pas mal de gros festivals. J'imagine que si l'album décolle... Les sollicitations risquent de pleuvoir pour.
On espère fortement.
Ouais. On revient un peu sur Fake Brutal.
Et il a été masterisé où ce disque?
Abbey Road.
Waouh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
Enregistré ailleurs quoi.
On l'a enregistré ailleurs. Non donc du coup il a été enregistré par Fabien Camoin du coup au studio 18, envoyé en Angleterre du coup dans le studio de l'ingé son de Bad Nerves. Donc voilà, il a mixé en fait la suite logique parce qu'on voulait bosser absolument, on voulait avoir les maillons suivants comme il a l'habitude de le faire. Donc du coup, on lui a demandé où est-ce qu'il masterisait, il nous a dit Abbey Road avec Christian Wright. Moi, surtout quand tu vois le palmarès de ce qu'il a masterisé, je crois qu'il a eu des awards pour les trucs d'Harry Potter, il est vraiment dans le...
Ouais. Mais du coup, c'est un budget énorme alors.
Pas tant que ça.
On s'est arrangé.
On s'en est bien sorti.
On n'en parlera pas.
On s'est montré très perspicace.
On s'est arrangé, voilà. C'est des gens qui travaillent souvent ensemble. Et, parce qu'on n'avait pas vraiment un budget de fou non plus.
Le premier sorti qu'on n'a pas encore diffusé.
Mais oui, le premier single, Demon's Call.
Demon's Call,
ouais. Le choix, vous l'avez fait comment?
De sortir celui-là,
ouais,
tu veux
ouais,
dire
ouais, par rapport au choix sur l'album, en disant celui-là c'est un single, c'est une concertation ou c'est un choix
C'est une concertation.
Ouais. Pas qu'entre nous, avec aussi les labels, ouais, notre attaché de presse, etc.
On a voulu avoir le plus d'avis possible de notre entourage. Je pense que c'était le bon single parce que ça dénote un peu quand même de ce que fait les Spitters globalement depuis le début. Et ça ouvre des nouvelles perspectives.
Ouais, ça n'a pas été évident, ça a été quand même une galère. On a beaucoup réfléchi à l'ambiance qu'on voulait vraiment donner pour un premier single.
Ça donne un peu le ton après, en fait.
C'est ça, ouais. Single, ouais. Donc, c'est pour ça. On voulait que le premier single marque quand même que... Ah bon, voilà, les Spitters, c'est quelque chose de nouveau, quoi, quelque chose de frais.
Exactement, c'est-à-dire que le nouvel album, il y a quand même des recettes qu'on sait faire, mais on est quand même allé dans des univers qu'on n'a jamais forcément joué. Je vois Demon's Call, c'est quand même plus poppy, avec des mélodies un peu dark, mineures. C'est pas forcément ce qu'on fait habituellement, et on trouvait ça, de marquer le nouvel album avec un morceau vraiment qui dénote, quoi.
Yeah. On parle de Superstar et du clip ?
Eh bah oui, carrément. Deuxième single. On l'a composé tous ensemble, celui-là. En répète.
Pourquoi généralement, c'est pas collégial vos modes de composition ?
Non, pas trop. Et après, on arrange quelques trucs, mais souvent la base est déjà assez solide. Alors que là, pas du tout. C'est justement un morceau qu'on a créé ensemble en répète. Et du coup, bah, le clip a été réalisé par Pat, qui gère toute notre DA artistique, etc.
Ouais, gros bisous.
On lui laisse le champ libre à chaque fois pour qu'elle fasse, qu'elle s'amuse et que ça fonctionne avec bah, aussi ce qu'on a en tête. Donc voilà, on est très content de ce clip.
On peut peut-être ajouter que c'est la première fois qu'on tente avec les Spitters de faire un clip qui n'a pas vraiment, qui ne suit pas la thématique des paroles en fait, parce qu'en fait le clip s'apprécie pour ce qu'il est sans nécessairement corréler avec les thématiques qu'il traite.
Après, il y a quand même cet immense ciel bleu. Et ce bleu qu'on retrouve dans toutes vos pochettes, cette volonté du bleu, c'est quoi ?
C'est la couleur de la DA de, pour les puristes des Spitters. On était plutôt avant dans le noir et blanc.
Ouais, c'est ça.
Et là, on a voulu colorer et on est parti sur le bleu.
On a toujours des images un petit peu choc. On a eu un peu des bâtons dans les roues avec ça.
La pochette de base n'est pas passée déjà.
Première pochette de l'album, en fait, elle était trop violente. Donc on n'a pas pu la sortir. C'est un peu relou de se dire qu'on va être bridé juste par une pochette, alors qu'on a quand même un contenu qu'on a créé. De se dire que les gens vont pas l'écouter parce qu'ils vont se dire « Ah non, la pochette...
La pochette est importante, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on a dedans, les morceaux. Et si en fait, on ne peut pas écouter nos morceaux à cause d'une pochette,
Le jeu ne valait pas la chandelle du
Exactement.
Tout.
Exactement.
Ouais, tout à fait. Je comprends. En tout cas, moi, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup écouté. Et c'est vrai que... Et je pense qu'en plus, c'est relevé par quasiment tous les médias ou tout le monde qui en parle. C'est, vous avez vraiment un côté mélodique qui est encore plus assumé et plus fort que tout ce qui a pu avoir été produit avant, quoi. Je pense que c'est une volonté de votre part, c'est pas un hasard.
Complètement.
Clairement.
De toute façon, on est à la base, on est fan de mélodie et de brutalité. Donc on essaye de mélanger ça.
Un mix des deux. Ouais.
Voilà. Par contre, en fait, on se veut être de plus en plus énergique et de plus en plus mélodique. Sans non plus tomber dans du punk californien ou avec des mélodies non complexes ou trop évidentes.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est un choix de notre part. C'est-à-dire... continuer à avancer dans la mélodie, mais sans passer dans le côté pop. Garder vraiment l'esprit punk, parce que c'est ce qui nous fait kiffer.
Alors, on va pas lâcher le morceau comme ça. On va encore pour nos auditeurs expliquer ces morceaux, surtout le deuxième, parce qu'on n'a pas parlé du tout. Donc Up and Down.
Ouais, Up and Down. En fait, quand on a prévu d'enregistrer l'album à l'époque, on s'est rendu compte qu'on n'avait absolument pas le temps. Donc en fait, on a cisaillé l'enregistrement du disque en trois sessions. Moi, je me suis parce que cet album, il n'est pas enregistré live, il est enregistré piste par piste. Enfin, moi, je sais que pour moi, ça a été genre en mode, j'ai pas le groove encore sur le morceau et je suis déjà en train de l'enregistrer.
D'accord.
C'était assez spé, quoi. quand on a commencé à le retravailler pour le jouer en live, on s'est rendu compte qu'on l'avait très peu joué.
Ouais, c'est vrai.
Bon, et si on revenait maintenant un petit peu aux Speeders?
Et à la future actualité?
Aux tournées, aux concerts et à tout ce qui arrive.
On a une tournée en Allemagne en février et ensuite on aura une autre tournée en Italie et en Angleterre et Belgique.
Et combien de dates ça nous fait tout ça?
Ça va faire 40 dates en 5 mois à peu près.
Ouais, c'est énorme, c'est beau.
Ouais, c'est cool. On est très contents vu qu'on fait surtout de la musique pour partir en tournée.
Il va en falloir des cafés. Hein.
Et toutes ces dates, c'est vous en tête d'affiche, vous en première partie, vous dans des contextes, ça mélange.
Un peu tout.
Ouais. Un mélange de tout.
Quand t'es en tournée, le mardi soir, tu joues dans un bar et peut-être le week-end, tu fais une plus belle salle en première partie d'un beau groupe ou c'est nous la première partie. En fait, on n'en sait rien.
Et pour vous, le changement, c'est comme quand on vivait ce changement, enfin, par exemple, de passer de, comment on vient de dire, d'un petit bar quelque part.
C'est excitant.
Ah, d'un coup, une salle.
Moi, pour ma part, c'est pareil, en fait. Que je joue devant 3 personnes ou devant 200 personnes, en fait, je mets la même énergie et je joue que les gens devant nous, ils kiffent, en fait. Voilà, basta.
S'il y a des gens.
Ouais. Mais ce qui est génial en tournée, justement, c'est que tu passes de ça à belles dates. Et ça crée une espèce d'atmosphère et d'adrénaline.
C'est ça que je voulais savoir. Si pour vous, c'est une appréhension totalement différente ou un stress différent. Et toi, Dorian, tu m'as dit que non, pour toi, c'est pareil. Tu vas tout donner.
Je veux dire, tu te barres de chez toi, tu pars en tournée avec ton groupe. Ouais. En fait, tu t'en fiches. S'il n'y a pas beaucoup de monde, tu ne vas pas pleurer. En fait, tu joues devant peu de personnes et en fait, tu t'éclates. En fait. Barney et Sloop n'étaient même pas dans le groupe. On avait joué à Lille, on avait commencé à jouer devant une personne. Bon, après, ça s'est rempli. On est arrivé, je crois, jusqu'à 10 personnes. Je me dis, en fait, je suis à Lille, j'ai fait beaucoup de routes pour aller jouer là-bas. En fait, c'est cool, en fait. Je kiffe. La seule personne qui est devant toi, elle kiffe,
c'est ultra positif. Non, mais ta manière de voir les choses est ultra positive. C'est génial. Voilà. Donc là, comme on reste que sur les trucs super, on a deux super indie. Allez, on en voit alors.
Ça, c'était les Speeders.
Bon, les gars, en tout cas, c'était une super émission, un super moment pour nous. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi.
Carrément. Merci pour l'accueil. Cool,
C'était trop bien.
Et les bonnes barres de rire. Cool.
Merci beaucoup.
De toute façon, c'est surtout merci à vous. Et puis, comme d'hab, on va dire que vous savez où est la porte, toujours.
On vous enverra un texto.
Mais en tout cas, c'était vraiment très très chouette. J'espère que ça donnait envie d'attendre impatiemment cet album. L'album, j'espère, va démarrer très très fort.
Pour aussi de nouvelles aventures.
Des bises, à bientôt.
Salut.
Maîtresse de ses productions, tant musicales que visuelles, Agathe Plaisance sort son deuxième album, Deep Rest. Écoute et interview par Morgane de Radio Primitive.
Last night at the station, I've been waiting for you. Smoke lot of cigarettes.
Agathe Plaisance est une artiste multidisciplinaire, originaire de Normandie et issue de l'école des Beaux-Arts de Caen. Elle nous présente pour la Ferrarock son deuxième album, Deep Rest, sorti le 28 novembre.
Alors j'ai lu que ça faisait un an et huit mois que tu travaillais sur Deep Rest, enfin en tout cas qu'il avait mis un an et huit mois à voir le jour. C'est une sacrée aventure, en tout cas sur le temps long. Est-ce que tu veux bien nous parler de comment t'as déroulé ces un an et huit mois autour de, bah, j'imagine, la composition, l'enregistrement de Deep Rest?
Alors Deep Rest, c'est un album que j'ai composé à la fois pendant ces un an et demi et à la fois pas du tout pendant ces un an et demi, dans le sens où il y avait des morceaux qui existaient déjà. Donc le temps de composition, je le comprends pas dans les un an et huit mois, c'est plutôt le temps d'enregistrement, d'arrangement en studio qui a pris tout ce temps-là. Et en fait, je suis re-rentrée en studio, je sais pas, genre un mois après la sortie du premier petit album Beautiful Damage. Et cet enregistrement, il a pris plein de formes. On a été dans une maison à la campagne avec Arthur, donc chez qui j'enregistre, Octopus Garden Studio à Évreux, et Léo, qui est avec moi sur scène et qui est venu aussi sur les temps d'enregistrement de l'album. Et on est parti donc de maquettes guitare-voix et on a commencé à arranger tout ce qui s'est passé sur l'album. Et ce qui a été assez long pendant ces un an et demi, c'était pour moi de faire des choix en termes de sonorité. Je pense que c'est ça qui a pris le plus de temps, en fait. Et c'est ça sur lequel j'ai fait 36 allers-retours. Il y a plein de chansons qui ont eu plein d'allures différentes, plein de versions différentes. Et j'ai mis un an et huit mois à finaliser, fixer les choses, être OK avec ce qu'on avait fait, quoi. Il y a un peu cette légende autour du deuxième album qui dit que c'est jamais l'album le plus facile. Et je l'ai un peu vécu, parce que le premier, il y a un truc où tu vas dedans, t'es à fond, il y a une sorte de naïveté, d'envie de faire, et tu lâches tout. Et sur le deuxième, t'as envie d'être beaucoup plus réfléchi, de faire beaucoup plus plaisir. Aussi, mon rapport aux différents choix esthétiques et sonores ont évolué et continuent d'évoluer constamment depuis que j'ai décidé de faire de la musique et depuis que je continue de rencontrer plein d'outils. Donc, c'était aussi un terrain d'expérimentation. Donc, c'était vraiment me faire plaisir, aller à la rencontre de nouveaux instruments, savoir quels instruments on allait choisir, quels synthés, quels sons, qu'est-ce qui allait créer l'ambiance générale un peu du truc, avec cette envie d'aller chercher plutôt dans des esthétiques de musique électronique, ce qui n'était pas le cas sur le premier album, et ce qui se ressent beaucoup plus sur le second, du coup.
C'est rigolo parce qu'au rendu, tu sais, c'est très épuré, très minimaliste, et on s'imagine pas justement le travail qu'il y a derrière.
Bah, c'est vrai que j'ai un peu cette tendance à aimer bien les choses très minimalistes. Du coup, je pense que ça fait aussi partie du processus de parfois on y va à fond, on met plein de trucs, puis après on réécoute le morceau et on se dit qu'on a envie de retirer en fait des choses, que peut-être il faut affiner en fait aussi des envies qui sont peut-être pas finalement si pertinentes que ça, qui vont dans des ambiances qui nous parlent plus finalement. Enfin, c'est beaucoup de réécoute. Et le minimalisme, ça fait partie de ma façon de travailler. Je pense que j'aime bien quand les choses sont vraiment choisies avec précision et que c'est épuré, en fait.
Qu'est-ce qu'il en est du choix des morceaux, huit morceaux qui composent ce deuxième album, avec des thématiques, ça parle d'amitié, ça parle de la vie, de rapport à l'alcool. C'est assez intimiste des fois, je trouve. Comment t'as choisi ces morceaux-là? Comment t'as choisi peut-être l'ordre des morceaux, la façon de les présenter?
Dans mon rapport à l'écriture, j'écris en fait de façon assez chronologique les morceaux, qui sont très liés à ce que l'existence me permet d'expérimenter, ce que je traverse. Et donc forcément, il y a des sujets intimes qui sont liés à des événements dans ma vie très précis qui m'ont inspiré ces chansons, ces thématiques-là. Au début, je suis arrivée en studio avec 10 morceaux et finalement, je suis ressortie avec 8 parce que c'était les 8 qui me semblaient les plus pertinents et les plus correspondre à cette temporalité que j'avais envie de cristalliser finalement. Cette temporalité qui était un moment de ma vie un peu compliqué où je traverse depuis 4-5 ans une dépression, et ça a beaucoup nourri en fait mes textes et ça a beaucoup accompagné l'album. Et c'est assez drôle parce que celui-ci, justement, je ne savais pas comment l'appeler. J'étais un peu perdue, J'avais une perte de sens aussi, enfin pas de sens par rapport à la musique, mais j'étais très perdue par rapport à ce que j'allais rendre de cet album visuellement, comment j'allais l'appeler et tout. Ça correspond complètement à l'état dans lequel j'étais et je suis encore un peu. Et en fait, après l'enchaînement des morceaux, c'était plutôt une réflexion là sur comment amener cette ambiance électronique tout en partant de cette base guitare-voix qui reste présente et qui est encore, enfin, qu'on ressent et qui est toujours présente sur cet album-là. Comment faire qu'il y ait cette espèce de vague, un peu de va-et-vient, de montagne russe un peu, tu vois. Quelque chose de très émotionnel, je pense que ça peut se ressentir sur l'album. C'est des morceaux avec des intentions très variées. Et ça traduit assez bien l'état émotionnel dans lequel j'étais finalement pendant le... J'ai pas envie de dire écriture parce que c'est pas l'écriture, mais en tout cas pendant la mise à plat de cet album, pendant sa confection, quoi.
On retournera discuter avec Agathe Plaisance juste après un morceau de son nouvel album Depressed, Black Haired Boy. I think I have to tell you the story of Black Haired Boy. Développe un univers pop, folk et électronique dans son nouvel album Deep Rest. La musicienne autodidacte répond à nos questions.
Je suis assez seule sur la composition des morceaux. Je suis seule sur tout l'accompagnement administratif, la communication, la production aussi, juste sortir sur des supports, sortir. Je délègue un label distributeur, December Square. Et après, sur le reste, effectivement, je suis assez seule. Mais par contre, sur ce temps d'enregistrement, d'arrangement, créer des ambiances, poser des ambiances, là, pour le coup, je suis pas seule. Et avoir des interlocuteurs, ça apporte quelque chose aussi. En fait, il y a quand même leur touche qui est présente, il y a leur proposition qui est présente, des propositions qu'ils m'ont faites auxquelles j'ai répondu positivement, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été faites et j'ai pas répondu positivement à certaines, tu vois. Donc il y a un peu d'isolement dans mon travail, mais pas que quand même. Ça me semble normal quand même à un moment donné que notre musique elle soit pas enfermée. Enfin, c'était le rapport que j'avais jusqu'ici avec mes chansons. Je faisais ça toute seule dans ma chambre avec ma guitare et tout. Et à partir du moment où tu veux sortir de ta chambre, tu te confrontes forcément à d'autres regards, à d'autres créativités. Et tu peux te laisser prendre en fait aussi par ça, te laisser inspirer par ce que les autres on projette sur ce que tu écris et sur ce que tu proposes.
Le clip de Cocaine, tu l'avais fait avec une asso?
Carrément, c'est l'asso Carousel Records. C'est une asso dans l'heure avec des copains où on fait de la live session principalement. Et je suis cadreuse pour cette asso-là, de façon bénévole et de temps en temps salariée. On a ce goût commun pour les images et du coup, c'était assez chouette parce que ben, on a ces outils à disposition et c'était l'occasion de faire un clip ensemble à moindre coût et de moi continuer à expérimenter des choses parce que j'ai eu un master aux Beaux-Arts, donc je faisais beaucoup de photos, vidéos et tout ça, donc ça me permet de garder un lien en fait aussi avec la création plus artistique, plastique, visuelle. C'est encore autre chose, ça me permet de continuer de profiter de ma musique mais sous un autre angle et que j'aime beaucoup. Donc voilà, on a fait ça entre copaines.
C'est un peu un ancrage aussi de bosser comme ça avec une asso, même si c'était copaine et tout, tu vois. Un ancrage sur ton territoire. Comment t'es soutenue, toi, dans ta création à Évreux? Est-ce que des structures t'accompagnent?
Bah, c'est vrai qu'à Évreux, c'est un peu mon terrier, quoi. C'est là où j'ai grandi. Et donc, forcément, j'avais des amis qui faisaient de la musique et ça m'a beaucoup inspirée, je pense, quand j'étais adolescente. Après, je suis partie faire mes études et puis bah, je suis revenue après le Covid et c'est là où j'ai décidé de me lancer dans mon projet musical sans trop savoir où j'allais. Et j'ai eu le dispositif d'accompagnement de la salle de musique actuelle là-bas qui s'appelle le Cube. Et plus récemment, j'ai été accompagnée à échelle régionale par le dispositif Start & Go Norma, donc avec des financements mais aussi avec tout un temps de formation pendant un an avec des rencontres plus ou moins régulière et ponctuelle avec une coordinatrice du pôle accompagnement, un peu du dispositif d'accompagnement et d'autres artistes sélectionnés. Donc c'est aussi toujours chouette de se rencontrer les uns les autres sur le territoire, quoi. Il y a quand même un ancrage territorial, ouais, c'est vrai. je sais que ma meilleure copine a dit tu fais de la musique made in Normandie. Et je trouve ça assez rigolo. Qu'elle dise ça parce que je vois bien. De toute façon, quand tu développes ton projet, tu es forcément confronté à des échelles, on va dire. Et la première échelle, c'est ton département, après, c'est ta région. Et puis, bah, si tu peux sortir de ta région et aller toucher un peu plus au national, il se passe encore autre chose. Mais tout est un jeu d'échelle. Et pour le coup, j'ai de la chance parce qu'il se passe des choses dans l'heure et j'ai d'autres. Il y a d'autres choses qui se passent qui sont inspirantes et il y a plein de gens qui font des choses. Et on a envie de travailler les uns avec les autres, quoi.
Au-delà, je vais peut-être un peu au-delà de l'album, là, du coup, mais qu'est-ce que tu voudrais peut-être partager sur le milieu de la culture actuellement? Je sais que tu fais aussi des actions culturelles à côté, non?
Eh ben oui, je fais des actions culturelles, et pas que ça. Je suis aussi directrice d'un festival dans l'Eure qui s'appelle Rock in the Burn, à Vernon. Et je me forme depuis bientôt 2-3 ans à la régie plateau pour des sacs de musique actuelle, mais aussi plus récemment je travaille sur un projet qui s'appelle le projet Demos à la Philharmonie. Enfin, je travaille pas, mais en tout cas je suis embauchée par ce projet-là ponctuellement. Donc j'ai vraiment une double vision, une double casquette, et je suis parfois inquiète de la situation actuelle, hein, du secteur culturel, des financements publics, des économies privées qui peuvent absorber certains projets, je pense, et ne pas faciliter du tout la mise en place des événements, des cachets des artistes qui flambent, le fait que les diffuseurs aient de moins en moins de moyens, enfin, et les labels aussi, le fait que la consommation de la musique ait énormément changé chez les auditeurs, le fait qu'on consomme énormément sur les plateformes, donc le résultat, c'est que les artistes sont moins rémunérés et que le support du disque et du vinyle est quand même plus du tout dans les habitudes de consommation. Donc c'est un peu schizophrène, mais moi j'aime bien parce que ça me permet d'être... Enfin, la musique, c'est un peu toute ma vie, donc pouvoir en faire, en profiter, faire vivre mon projet et en même temps continuer d'être au service de la musique et au service de la musique d'autres artistes, mais aussi de structures, c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, c'est un peu hyper monomaniaque, mais je fais que ça de ma vie, en fait. Un morceau, à mon avis, qui mérite d'être un peu découvert, c'est Wine.
Wine, c'est un morceau qui m'a donné une vraie sensation d'étourdissement à l'écoute, comme l'ivresse. On en parle avec Agathe avant de l'écouter.
Entre nous et tout ça, en studio, c'était important pour nous que ça soit un morceau qui... Ouais, qui nous étourdisse un peu. Sur scène, on va encore plus loin parce qu'on essaie carrément de donner la gerbe. Et ce morceau-là, on l'a réarrangé de façon hyper électro et il est très frontal. Et c'est pour ça que j'aime bien ce morceau-là, parce qu'il est... Ouais, il y a un truc un peu aussi sensoriel qui nous a bien animés. Mais je sais pas si tu vois le morceau... Enfin, je sais pas si tu vois le film, il est assez vieux. Fille perdue, cheveux gras. Avec Marina Foïs dedans. Et Marina Foïs, c'est une sorte de comédie musicale un peu étrange, avec quatre personnages féminins à qui il arrive des aventures pas possibles. Et j'adorais ce film quand j'étais enfant. Et il y a un moment, une des personnages, en tout cas celle qui est interprétée par Marina Foïs, souffre d'alcoolisme. Et il y a un morceau qui s'appelle Alcool. Et ce morceau, il m'a attrapé quand j'étais enfant. Tu ressentais quoi, cette l'enivrement du personnage, et la musique rajoutait tout un truc et tout. Et je me souviens que je l'avais mis un peu dans ma playlist de référence pour ce morceau-là spécifiquement, parce que il donnait presque la gerbe, en fait, ce morceau, et j'aimais bien cette idée-là, en fait.
Merci à Agathe Plaisance pour ses explications. N'hésitez pas à la suivre via ses réseaux sociaux, et pour savoir où elle se produira en concert, rendez-vous sur son site internet agatheplaisance.com à l'onglet agenda.
pour nous accompagner encore plus profondément dans l'automne, Cédric de Fréquence Mutine a rencontré Brasier à l'occasion de la sortie de son disque nommé After, qui mélange dark wave et pop synthétique.
Nous sommes en compagnie de Max de Brasier pour la Ferrarock. Salut Max.
Salut Cédric.
Alors tu viens nous parler d'un deuxième album qui s'appelle After, qui est sorti il y a quelques semaines à peine sur ton label et sur 2-3 labels du coin.
C'est ça, donc mon propre label s'appelle Binaire Ordinaire pour sortir mes propres productions. Et c'est sorti également sur French Wine Records de Brest, KDB Records de Rennes, en vinyle pour les deux, et également en cassette sur Ideal Crash, c'est un label aussi de Rennes.
Alors il fait suite à un premier album sorti en 2020, sorti un peu en catimini, autoproduction totale, petit tirage qui avait très très bien marché. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse de Brasier, sur ton parcours en quelques mots ?
Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai commencé la musique il y a déjà très longtemps, dans les années 90, avec un power trio qui s'appelait No Sense. On avait fait pas mal de café-concerts. Ensuite, entre 2000 et 2010, j'ai fait partie du trio Frigo. On a pas mal tourné, on a sorti des albums sur le label de Rodolphe Burger à l'époque. En 2018, j'ai sorti un album avec le groupe Uvicious. C'est un duo. On a sorti ça sur le label Manic Dépression de Paris. Et en 2020, à l'époque du confinement, du Covid, c'est vrai que j'ai souhaité m'orienter sur un projet solo basé sur essentiellement de la musique électronique avec des chants français plutôt de l'ordre de l'introspectif, voire l'intime. Et tout récemment, le deuxième album After vient de sortir. C'est un album toujours solo, hein, sauf que c'est vrai que j'ai amené des guitares et un côté plus lumineux et dynamique.
Alors il y a des invités sur cet album, et notamment on retrouve tes deux anciens camarades de jeu de l'époque de Frigo, qui était vraiment le projet avec lequel tu as connu peut-être le plus le monde de la musique. Là, ton projet s'appelle Brasier, c'est un pied de nez, Brasier avec deux Z. Est-ce que c'est un pied de nez, Frigo, Brasier ?
Eh bien, effectivement, c'est un clin d'œil. Oui, c'était pour quelque part marquer une forme de rupture, mais aussi une forme d'association. Et puis bon, je trouve que Brasier, le terme s'adapte, correspond à ça, à ma musique. Il y a un côté un petit peu, de braise, hein, c'est-à-dire un côté un peu dark, mais parfois incendiaire. On sent bien qu'il y a toujours de l'énergie qui va ressortir de tout ça, et souvent des moments un peu plus explosifs aussi. Donc voilà, je trouve que Brasier avec deux Z, comme tu le soulignes, match assez bien avec la musique que je peux proposer.
Tu le disais, c'est un projet personnel, Brasier, dans l'écriture, dans la composition. Est-ce que c'est un projet introspectif ?
Oui, sur le premier, ça l'était d'autant plus que j'ai passé une période un petit peu difficile, on va dire, parce qu'à cette période de confinement s'est mêlée aussi une séparation, hein, qui m'a un petit peu marqué, on va dire. Et sur le deuxième, c'est plus ouvert, on va dire, sur le nouvel album qui vient de sortir. J'ai souhaité quelque chose de plus ouvert en termes d'écriture. C'est vrai que j'interroge, on va dire, l'amour, l'ivresse avec l'aspect festif, la nature, mon rapport à la nature aussi. Et je l'ai souhaité aussi ouvert vers les autres, et c'est pour ça que il y a des invités, des guests, on va dire, sur l'album, pour finalement proposer un panorama plus ouvert.
Alors tu parles d'ivresse, tu parles d'amour. Alors c'est marrant parce que l'album s'intitule After, c'est aussi ton premier choix de single.
Exactement. C'est le premier morceau que j'avais composé, c'est un peu lui qui a donné le tempo et le mouvement de tout l'album. After, bon, il y a cette notion de « après ». Parce que j'étais dans une forme d'après, en tout cas dans ma vie, quelque part. Et After, on l'utilise aussi pour le côté festif, After Party. Et c'est ce qui a aussi donné le nom à l'album. La pochette, c'est une déclinaison aussi, on va dire esthétique et graphique, de cette idée d'After. Donc finalement, tout combiné, ça donne un single qui s'appelle After. We'll be right back.
l'envers. Je ferme les yeux, tout s'accélère. Je sais déjà que je prends cher. Je découpe mon cerveau au cutter. Je ramasse les bouts tombés par terre. Là où les pieds collent dans la bière, juste il passera la serpillière.
Parle d'esthétique, c'est vrai que l'objet est magnifique, en tout cas la version vinyle, une version noire, une version bleue, profond, océan, lagon, qui colle parfaitement aux couleurs de la pochette. On sent que tu as mis beaucoup de soin, en tout cas, pour réaliser ce disque. Ça t'a pris combien de temps, on va dire, du moment où tu as décidé de donner une suite à Ligne Future et jusqu'à aujourd'hui, à la sortie de cet album?
Quand Ligne Future est sortie, bon, j'ai travaillé déjà à la sortie de Ligne Future. J'ai souhaité justement accompagner chacun des morceaux avec un clip, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas possibilité de faire des concerts, du live. Donc la seule façon finalement de donner de la visibilité aux morceaux, c'était de faire beaucoup de clips. Et une fois que c'était fait, effectivement, j'ai commencé à écrire la suite. J'avais plusieurs morceaux qui sont restés en jachère, plusieurs textes qui sont restés en jachère. Et il y a un moment, effectivement, où j'ai commencé à réfléchir à un producteur, un mixeur pour l'album. Et le nom de James Aparicio m'est venu parce qu'il avait travaillé, alors déjà avec des grosses pointures, hein, Depeche Mode, Mogwai, Nick Cave, mais aussi avec un artiste rennais qui s'appelle Sarah Kiniko. Donc c'est Yann du groupe en question qui m'a dit n'hésite pas à contacter James, etc. Et James, c'est lui qui m'a un peu poussé finalement à terminer les morceaux en me disant tiens, j'ai un créneau dans deux semaines, j'ai un créneau pour mixer deux morceaux, sois rapide, envoie-moi deux morceaux terminés. On a fonctionné comme ça sur une année. Donc, du coup, ça a donné 10 titres qu'on retrouve effectivement, comme tu disais, en version vinyle, en version CD et cassette. Et chaque objet était... Il y a eu un traitement, on va dire, un petit peu différent. Et j'aime l'idée de soigner, effectivement, surtout quand on sort un disque tous les 5 ans, de faire en sorte que ce soit un bel objet, que l'objet puisse correspondre visuellement à l'esthétique musicale, que les deux puissent former un tout, en quelque sorte.
Alors, il y a un autre single qui s'appelle L'amour. C'est un ping-pong à deux voix avec Blandine Bescon, avec qui tu partages le micro.
Tout à fait. Alors, Blandine, c'est... Elle est multiforme, on va dire. Elle a beaucoup d'activités. Elle est prof de français, mais par ailleurs, elle fait de la poésie, de la photo. Elle a des projets musicaux qui s'inscrivent dans de la poésie aussi. Et donc, on a beaucoup échangé un temps entre le premier et le deuxième album. Il y a assez rapidement l'idée d'une forme de ping-pong littéraire ou poétique qui s'est installé. Et c'est vrai que sur ce texte, L'amour, il y avait cette forme de ping-pong dans les paroles où parfois on se rejoint, parfois on se contredit, parfois on chante à l'unisson. Et c'est ce qui caractérise aussi quelque part l'amour, bien souvent. Et j'avais envie finalement de proposer ma propre version d'un thème, l'amour, qui est universel et qui a souvent donné lieu à des morceaux. Mais là, je voulais quelque part en faire ma version.
L'amour givré et incendiaire. L'amour.
part sur la Ferra Rock, on aime la musique, mais on aime aussi les mots. Et les mots, ben là, c'est écrit en français. C'est un des marqueurs forts aussi de ton projet Brasier. En quoi ça a été important pour toi d'écrire en français ?
Eh bien, ça tient au fait que j'ai déjà eu des groupes où je chantais en anglais. Et c'est vrai que j'avais le sentiment parfois d'être limité, on va dire, dans le... Alors, pas forcément dans ce que je pouvais dire, mais il y avait toujours cette notion de jouer sur l'énergie, avoir des gimmicks pour des refrains, par exemple. Et je trouvais quelque part, vu que c'est pas ma langue natale, ce côté-là un petit peu réducteur. Et en plus, je m'apercevais que ce que je pouvais dire ou chanter, en tout cas dans les concerts en français, etc., ça donnait pas lieu à des discussions où finalement les gens écoutaient plus l'énergie d'un groupe que les paroles. Donc j'avais finalement vraiment envie, sur ce projet solo, de mettre de côté tout l'aspect énergique et me concentrer finalement sur une musique assez sobre et électronique pour pouvoir poser des mots et m'exprimer, alors en français pour le coup, pour exprimer toutes sortes d'émotions, mais avec des mots très précis, avec un phrasé aussi en avance de phase, en retard de phase. L'idée de travailler en français, ça m'a aussi montré qu'il y avait une certaine mécanique, voire une certaine mathématique des mots qui m'a beaucoup intéressé, faire sonner tel et tel mot, la double connotation, des choses qu'on ne retrouve pas forcément effectivement dans la langue anglaise. J'ai beaucoup aimé cet exercice et du coup j'ai voulu le prolonger sur un deuxième album.
Des artistes qui t'ont inspiré, des artistes français justement dans cette façon d'écrire et de chanter en français ?
Alors en artiste connu, on va dire que j'aime beaucoup Bachung par exemple. Il y a un artiste sinon qui s'appelle Mathieu Malon avec qui j'ai beaucoup échangé, j'aime beaucoup ses albums aussi. Et il y a Olivier Depardon qui jouait dans Virago, qui a sorti quelques albums sur le label Vicious Circle. Moi, j'aime beaucoup sa mécanique aussi, des phrases, ce qu'il peut... Il y a beaucoup de couleurs, de rapport à la nature. C'est un petit peu sombre aussi. Mais j'ai pas de référence, sinon, on va dire, très connue. J'essaye finalement d'apporter ma propre touche à la langue française. Et ce que je retiens, en tout cas, des retours que je peux avoir, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Ah bah, habituellement, j'écoute pas trop de trucs en français, mais alors le tien, quelque part, est... » Il a une dissonance par rapport à ce qu'on peut entendre parfois et du coup il s'y intéresse, ce qui est assez marrant finalement.
En tout cas, il faut se plonger dans l'écoute de cet album. Un album qui compte aussi un instrumental, mais ça c'est quelque chose qui était assez régulier chez toi. Tu aimes aussi la musique instrumentale et donc il y a un morceau qui s'appelle Murmuration que tu as choisi d'ailleurs en troisième single de l'album. Pourquoi ?
Eh bien, ce morceau Murmuration, effectivement, alors comme tu le rappelles, j'aime beaucoup placer des instrumentaux sur mes différents albums parce que je trouve qu'ils amènent une respiration aussi dans le rythme d'un album. Et bon, je suis assez fan moi-même de musique électronique, post-rock, etc., où c'est souvent les instrus qui priment. Là, l'idée, c'était d'inviter mes deux compères de mon groupe Frigo, qui a duré 10 ans, à venir jouer la basse et la batterie. Et de donner une touche un petit peu différente à l'album pour mettre une forme de respiration aussi dans tout ça.
Brasier, c'est un album que tu mènes de façon autonome, en solo, tout seul, comme un grand, de A à Z. Est-ce que c'est une formule qui te convient bien ?
Eh bien écoute, c'est vrai que c'est un projet solo finalement. Dans un premier temps, j'ai sorti un premier album à un moment donné où les disquaires étaient fermés, où les labels n'avaient plus de visibilité sur leur planning de sortie, où de toute façon on ne pouvait plus faire de concerts. J'avais envie de sortir cet album coûte que coûte, donc je m'y suis collé tout seul. Effectivement, j'ai la casquette écriture, composition, production de l'album, promotion, distribution.
Livraison.
Livraison à domicile parfois, livraison apéro, ça peut arriver même. Et donc sur le deuxième album, l'idée c'était aussi de pouvoir le sortir assez rapidement, de ne pas être contraint par des plannings de sortie, etc. Donc de le rendre disponible assez rapidement, mais aussi en étant accompagné de différents labels, French Wine et KDB, ainsi qu'Ideal Crash. Donc effectivement, ce côté artisan, surtout do-it-yourself, on va dire, je le développe depuis déjà quelques années. Et c'est toujours appréciable de voir chaque facette, finalement, de la production d'un album.
Alors cet album After, il est dans les bacs depuis le 5 novembre dernier. Il ne faut pas hésiter à aller le demander hein, auprès de vos disquaires préférés. S'ils veulent l'obtenir, ils peuvent aller le commander auprès des différents labels. On fait comment si on veut acheter ton disque à distance, par exemple ?
Eh bien, à distance, bah, je suis sur les réseaux, hein, avec voilà, Brazier, B-R-A-2-Z-I-E-R. Je suis sur Bandcamp. J'ai ma petite boutique Sum Up Store aussi. Mes partenaires, donc French One Records et KDB, ont également leur propre Bandcamp sur lesquels on peut trouver les deux versions vinyles. Voilà, on peut streamer aussi hein, sur les différentes plateformes. Donc, bon, l'idée, c'est de googliser mon nom, B-R-A-2-Z-I-E-R, et de trouver son bonheur. Tic, tic, tic.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Vous venez d'écouter l'interview de Brazier par Cédric de Fréquence Mutine pour la sortie de After, disponible depuis le 5 novembre sur les labels French Wine Records et ID Crush. Nous vous présentions également les deux albums découvertes de la semaine. Fake Brutal par The Spitters, sorti le 14 novembre sur les labels Alling Banana, Mars Invasion et Tentacle Industries, ainsi que Depressed par Agathe Plaisance, paru le 28 novembre via December Square. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les disques soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.